petit royaume de Navarre est envahi par la Castille. La noblesse navarraise est poursuivie à mort. Le père de Saint-François-Xavier doit s'exiler. Leur château est détruit. L'haute tour de Saint-Michel s'écroule sous les pioches ennemies. Nous sommes en 1515. La mère et l'enfant regardent brisés de douleur le désolant spectacle. Elle est lasse de tant de guerre. Elle a vu ses cinq fils partir à la bataille. Elle ne laissera pas le dernier choisir le métier des armes. Il sera docteur comme son père et pour cela il ira étudier à la Sorbonne. La Sorbonne, la grande université de Paris. Le rêve de tous les notables de l'époque l'attend. L'horaire en est sévère. Levé à 4 heures, premier cours à 5 heures, aucune fantaisie n'y est permise. Les étudiants réagissent avec rage contre ces conditions inhumaines. La nuit, ils sortent de l'université pour se livrer à la débauche et à l'ivrognerie. Saint-François ressent aussi cet appel. Il lutte désespérément, mais il se sent prêt à céder. Il lui faut un ami. Et sa mère de la lointaine Navarre prie pour lui. Et Dieu va envoyer deux âmes de feu auprès de Saint-François-Xavier, Pierre Fabre et un étranger qui frappe un jour à sa porte. Il s'appelle Ignace de Loyola. Ignace de Loyola a déjà tout un passé de chevalerie. Pendant le siège de Pampelune, alors qu'il était capitaine, un boulet de canon lui cassa une jambe. Il dut rester allongé plusieurs mois. Dans le silence de sa retraite, Dieu s'empara de lui. Avec une telle force, un tel amour qu'il ne brûlait plus que d'un désir, devenir prêtre. Maintenant, Saint Ignace de Loyola et Saint François Xavier discutent à la lumière vacillante d'une bougie. Ignace veut se lancer à l'assaut du monde et conquérir les âmes pour Dieu. François l'écoute. Il se sent pris lui aussi désormais. Il appartiendra à Dieu seul. Août 1534. Dans la crypte de Montmartre, à Paris, sept jeunes se consacrent à Dieu. À leur tête, Ignace de Loyola. Parmi eux, François Xavier. C'est ainsi que naît la Compagnie de Jésus au service du pape pour combattre avec le Christ. L'hiver suivant, malgré le froid, il décide de se rendre à Rome pour se mettre au service du vicaire du Christ, le pape. Sur le chemin, il s'arrête souvent dans les hôpitaux et propose de soigner les malades. François Xavier dompte son orgueil auprès des plaies purulentes des plus misérables qu'il soigne avec amour. Paul III, le pape de l'époque, les accueille favorablement. Après leur avoir fait subir un examen, il les fait ordonner prêtres. Le 24 juin 1537, Saint François Xavier monte à l'autel pour célébrer sa première messe. Et voici la première mission. Jean, roi du Portugal, a demandé au pape des missionnaires pour les Indes. Le pape pense à la nouvelle Compagnie de Jésus. Saint François Xavier partira avec un groupe d'autres missionnaires. Ils embarquent à Lisbonne. Un voyage en mer à cette époque-là était un défi lancé à la mort. tempêtes et typhons étaient une menace perpétuelle. En pleine mer, un jour, le vent cessa. Le soleil chauffait terriblement. La soif devint atroce. La maladie tua les plus faibles. Saint François Xavier commença son premier apostolat sur le bateau, à réconforter les mourants, à soigner les corps, à sauver les âmes. Quand le vent se remet à souffler, l'équipage n'est plus en état de conduire le bateau qui part à la dérive. François, avec courage, prend la barre en main et guide le bateau dans la nuit. L'hiver passe monotone. Le printemps arrive. En avril, on arrive enfin au port de Goa. Pendant que l'équipage et tout le bateau sautent de joie, François prie en silence. Bientôt, il va engager la lutte pour le salut des âmes. Mais arrivé à Goa, c'est sa première désillusion. Les Portugais sont détestés par les indigènes à cause de leur rapacité et de leur mépris hautain des Indiens. Sa plus grande souffrance fut de découvrir un marché d'esclaves. Comment des chrétiens peuvent-ils vendre leurs frères rachetés par le sang du Christ? Comment attirer les Indiens maintenant à la religion catholique après de tels exemples? Saint François prie. Les étoiles du ciel d'Orient le voient s'agenouiller et prier longtemps pour ses frères portugais, qui porte la terrible responsabilité de tenir les Indiens écartés de la vraie foi. La réponse vient. Il entend dire que dans les limites du désert vit une tribu misérable et idolâtre, méprisée de tous. François ira à eux. Son habit étrange, la bonté de son regard, la douceur de ses paroles lui attirent vite les curieux. Il leur parle du Christ. On ne le comprend pas très bien, mais le courant passe. Ils commencent à vénérer le crucifix. Les jours passent. Les enfants, qui sont tous autour du prêtre, commencent à l'initier à leur langue. Bientôt, François arrive à se faire comprendre. Mais surtout, il le voit vivre. La nuit, il dort sur le sol, la nue. Il prie. On parle même de miracles. Le chef de tribu finissent par demander le baptême ainsi que leur peuple. La vie des nouveaux chrétiens est pleine de ferveur. Et voici que la première tempête se profile à l'horizon. Un peuple venu du nord saccage tous sur leur passage. François fait fuir dans les îles voisines tous ceux qui peuvent. Il restera au village pour les calmer. Mais rien ne peut calmer ce peuple barbare. Rien ne peut calmer leur soif de destruction et de rapine. Quand ils se rendent compte que le village est désert, ils veulent tuer François Xavier. Celui-ci est obligé de s'enfuir dans la forêt. Au milieu des herbes, des ronces et des épines, il se fait un passage avec peine, poursuivi par les sauvages. Épuisés, les indigènes finissent par renoncer à leur poursuite, mais une dernière flèche lancée par un d'entre eux atteint le saint à l'épaule. Lui continue son chemin en se mordant les lèvres de douleur. La tempête passa. Les paravers que François avait convertis purent regagner leur village. François guérit de sa blessure. Il laissa le village aux soins des prêtres zélés venus d'Europe et il se dirigea vers une autre butte. La caste la plus importante de l'Inde était celle des Brahmanes, qui se prenaient pour une réincarnation de Dieu. François comprit qu'en réussissant à convertir des membres de cette caste vénérée de tous, son travail missionnaire porterait beaucoup de fruits. Mais une nouvelle de Ceylan le toucha profondément. Là-bas, une florissante communauté chrétienne venait d'être décimée par la persécution. 600 personnes furent massacrées. Il y eut beaucoup de martyrs, mais aussi beaucoup d'apostats. Tout cela à cause des Portugais qui s'étaient rendus odieux auprès de la population. Saint François prie pour les missionnaires torturés, les apostats, les Portugais. Ce furent des jours de grande tristesse. François comprit que l'obstacle était insurmontable et chercha un autre projet. Il avait entendu parler de la terrible tribu des Alfuri coupeurs de tête qui habitait l'île Molucco. Les indigènes et les Portugais étaient consternés. Leurs saints allaient sûrement perdre la vie auprès des coupeurs de tête. Le gouverneur chercha à le dissuader. Il finit par lui refuser toute embarcation. Peu de temps après, François-Xavier débarqua sur une île où il resta 3 mois. On appelait cette île l'île de la mort à cause des fréquents tremblements de terre qui y sévissaient. Là, les indigènes passaient leur temps à frapper la terre avec un bâton, car ils espéraient ainsi calmer l'âme des morts. François réussit à les convertir et à les baptiser. Il baptisa cette île l'île de l'espérance. Sa mission terminée, il partit pour Malacca. Mais là encore, des pirates javanais pillèrent le port. Les Portugais ripostèrent. Une terrible bataille à coups de canon s'engagea sur la mer. Les bateaux portugais poursuivirent les pirates jusqu'au large, laissant le port sans défense. Bustan, chef d'une tribu guerrière, voulut en profiter pour faire main basse sur les richesses de la ville. Il proposa son aide trompeuse au gouverneur de Malacca. Mais ce dernier, qui comprit le stratagème, refusa l'aide du sultan. Le sultan prépara alors sa flotte pour prendre le port de force. Les yeux des Portugais scrutent l'horizon, où on espère apercevoir d'un moment à l'autre le retour de la flotte portugaise libératrice. Hélas, les jours passent et rien n'apparaît. François-Xavier, le 4 décembre, alors qu'il s'apprêtait à parler aux fidèles, a soudain une inspiration. Son regard s'illumine. Aujourd'hui, notre flotte a obtenu la victoire. Elle est maintenant sur le chemin du retour. Et en effet, la flotte apparut le jour même. Et le sultan s'en alla au milieu de l'allégresse populaire. L'hiver arriva. Un bateau étrange accosta au port de Malacca. C'était un bateau japonais. François-Xavier avait déjà entendu parler de ce royaume fabuleux. Il attendait justement une occasion pour s'y rendre. 10 jours après, avec quelques compagnons, François-Xavier voyait s'éloigner les côtes de Malacca. Très loin, vers l'Orient, une nouvelle et mystérieuse patrie l'attendait. Il fit d'abord connaissance sur le bateau avec la religion bizarre des Japonais. Ils adoraient d'affreuses idoles bedonnantes, brûlant devant elles des bâtons d'encens et se prosternant plusieurs fois à leurs pieds. Une fois arrivé en vue du Japon, François-Xavier découvrit en plein hiver Kagoshima, un port riant aux couleurs vives, aux costumes scintillants, un pays de contes de fées. La nouvelle de la venue d'étrangers fit vite le tour de la ville. On vint les voir de partout avec mille inclinations de tête. François-Xavier répondait le plus aimablement du monde, puis il commençait à leur parler de Dieu. Il obtint du gouverneur de la ville la permission d'enseigner la religion catholique. Le grand désir de François, c'était d'accéder auprès de l'empereur du Japon afin que la permission de prêcher l'évangile du Christ soit étendue à tout le pays. Or, ce n'était pas chose facile. L'empereur vivait caché, loin de son peuple. Au bout d'un an, François autour de lui, une centaine de chrétiens, et la religion commence à se diffuser rapidement. Mais les bonzes qui ont la garde du temple païen voient la chose d'un mauvais œil. Les offrandes ont diminué. Quelque chose se trame dans l'ombre. François obtient de discuter un jour avec eux en public sur la religion. L'échec des bonzes les rend furieux. Sur leur visage impassible, leur colère est terrible. Ils finissent par obtenir du gouverneur l'annulation de la permission qui avait été donnée à François de prêcher. François n'a plus qu'une chose à faire, aller voir l'empereur du Japon. L'hiver est rude. Il y a 1600 km à parcourir par terre et par mer. Il part. À Sakai, une étape, les bonzes menacent quiconque donnera hospitalité à ces étrangers et les portes se ferment une à une. François et ses compagnons, les mains gelées, construisent une cabane au milieu de la neige. Et le voyage continue. Ils ont les pieds gelés, les mains gercées. Ce sera le premier chemin de croix en terre japonaise. Un chemin de croix de 1600 km. Mais arrivés à Miyako, la capitale où siège l'empereur, une grande déception les attendait. Le palais est en flammes. La ville est en pleine révolution. L'empereur est mort, laissant son trône à son fils de 15 ans. Les tout-puissants Dami se font la guerre pour savoir qui va assurer la régence. Ce voyage a été inutile, il faut repartir. Sur le chemin de retour, François-Xavier s'arrête à Yamaguchi, ville dont les habitants l'avaient frappé par leur intelligence. Il est introduit auprès du gouverneur. Il se présente comme ambassadeur du Portugal et au nom du roi Jean III de Portugal, il lui offre divers cadeaux. Il y a là, parmi ses cadeaux, une horloge qui amuse beaucoup le gouverneur. Des paires de lunettes qui rajeunissent sa vue et quelques autres petites choses. En retour, il veut offrir une forte somme d'argent à François. Celui-ci refuse. Il demande seulement la permission de prêcher sa religion. Le gouverneur accepte tout de suite. Enfin, François-Xavier peut prêcher sans crainte. La première conversion ne sera pas le fruit de la parole, mais de l'exemple. Un frère prêche, et voici qu'un japonais lui crache au visage, sans se montrer offensé. Le frère s'essuie le visage et continue de prêcher. Dans la foule, un homme est bouleversé. Il a tout vu, il demande à être baptisé. En 2 mois, 500 personnes se convertiront. La rage des bons est extrême. Surtout que de jeunes disciples sont attirés par la religion du Christ. Ils décident de tuer le missionnaire. Un soir, à la faveur des ténèbres, ils s'emparent de lui et s'apprêtent à le tuer. Quand soudain, un éclair lézarde le ciel, suivi d'un coup de tonnerre. Un ouragan d'une rare violence s'abat sur la ville et les bons superstitieux lâchent leur proie épouvantée. Deux ans sont passés, les chrétiens sont maintenant 1 millier. La chrétienté est née au Japon. François peut s'en aller en paix. Non, pas exactement en paix, car un autre empire l'attend, la Chine. François veut maintenant porter l'évangile aux Chinois. Il retourne au port de Malacca. Son plan est clair. Il va se présenter avec l'ambassadeur du Portugal auprès de l'empereur de Chine. Il aura avec lui de nombreux cadeaux. Là, il sollicitera la permission de prêcher la religion chrétienne à tout l'empire. L'ambassadeur, chrétien fervent, accepte de tout cœur. Mais un obstacle se dresse. Le capitaine du port de Malacca, Don Alvaro, jaloux de la promotion qui vient de toucher l'ambassadeur du Portugal, se refuse à les laisser partir. Il se saisit même du timon du navire afin que personne ne s'en aille en cachette. François essaie de briser l'orgueil de Don Alvaro, qu'il a soigné de ses propres mains durant la dernière épidémie. Il le menace même d'excommunication. Rien n'y fait. Le bateau restera au port. François s'exclame alors sévèrement, « Je vous attends au tribunal de Dieu. » Il prie ensuite pour son persécuteur. Il finit par partir sur un navire marchand via la Chine. Il y a là des Portugais et des Espagnols. Or, il est interdit aux Européens de débarquer en Chine. Le commerce ne peut se faire que sur le bateau. François-Xavier cherche un homme courageux, capable de le débarquer en terre de Chine malgré l'interdiction. Il finit par le trouver. Moyennant une rondelette somme d'argent, on se fixe un rendez-vous. Le bateau viendra le chercher le 19 novembre. L'hiver arrive, avec le froid et la neige. Et François, pris de fièvre et d'une toux violente, attend le contrebandier. Mais personne ne vient. Le 19 novembre est passé, et François, les yeux fixés sur l'horizon, attends encore. La fièvre qui le tourmente s'aggrave encore. François sent que cela va être la fin. Il a avec lui son fidèle serviteur Antonio. Le froid de l'hiver pénètre par mille fissures dans la cabane et le fait tousser. Le dernier bateau va lever l'ancre bientôt. Tout est fini. Dans son délire, François voit la Chine, son rêve irréalisable, et ses lèvres parlent à une foule invisible. À l'aube du 3 décembre 1552, François-Xavier meurt au milieu de l'infini de la mer. Il a 46 ans. Il meurt après avoir parcouru des dizaines de milliers de kilomètres et baptisé de ses propres mains près de 70 000 fidèles. Son corps est enseveli dans la terre qu'il sanctifia, mais pas longtemps. Il fut exhumé pour être transporté à Goa. Lorsque son corps arriva dans la ville de Goa, on vit un spectacle incroyable. Des milliers et des milliers de personnes envahirent les rues pour pleurer leur apôtre. Et le 12 mars 1622, Saint François-Xavier fut proclamé saint. En 1927, Saint François-Xavier sera nommé patron de tous les missionnaires, à l'égal de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais aujourd'hui encore, sur la Chine, règnent les ténèbres du paganisme. Satan règne où la croix n'existe pas. Mais d'Inde, du Japon, parcouru tant de fois par les pieds meurtris du missionnaire, la figure du Christ en croix se détache sur le soleil de Dieu. Et un jour, à l'ombre de ces croix, les morts ressusciteront et le printemps s'établira, même dans les grandes plaines de Chine, dans les rives de ses fleuves et sur les bords verts de sa mer immense.
Quelle belle journée! C'est aujourd'hui l'anniversaire du petit François de Sales, enfant premier-né des nobles de Boissy. Le sieur de Sales est fier de son fils, robuste et courageux. Il fera certainement honneur à la cour de Savoie. Qui sait, peut-être même à la cour de France. Il a un tempérament fier et ardent. Les compagnons de François le savent bien. François, reposons-nous un peu, cela fait une heure que nous courons. Oui, mais alors d'abord saluez Notre-Dame. François, racontez-nous l'histoire de Jeanne d'Arc. Je le ferai pendant qu'on se reposera, et après on verra lequel d'entre nous arrivera le premier au château. Son père et sa mère lui avaient donné un tel amour de la religion, qu'un jour ne pouvant souffrir un invité calviniste, il le lui fit remarquer en chassant une poule de la basse cour au cri d'hérétique. François avait un cœur très bon, mais il ne réussissait pas toujours dans ses entreprises charitables. Monsieur le professeur, arrêtez. Laissez-moi, François. Votre feignant de cousin mérite aujourd'hui une bonne leçon. Non, laissez-le. Châtiez-moi plutôt. Voulez-vous me laisser, François, oui ou non? Non. Très bien. Alors vous allez recevoir tous les deux. Plus il grandissait et plus il démontrait une âme hors du commun. Monsieur de Boissy, votre fils est prédestiné à de grandes choses. Certainement, monseigneur, je vous remercie. Je l'ai consacré à Madame la Vierge dès sa naissance. Peut-être qu'un jour... Monsieur de Boissy avait déjà réfléchi à l'avenir de François. Il l'enverrait à Paris et il en ferait un avocat. Paris est une ville où on fait de grandes études, de l'équitation, de l'escrime. François s'avère très vite doué en escrime. Voyez, François, on est très content de vous au collège de Clermont. Mais Paris est dangereux et peu nombreux sont ceux qui persévèrent dans le bien. Rappelez-vous de cela, lui dit le supérieur du collège. En effet, à Paris, c'est une jeunesse bruyante et dévergondée qu'accueille François. On veut l'entraîner au carnaval. François entend encore la voix du supérieur. Paris est dangereux. Rappelez-vous-en, François. Satan lui crie, « Divertis-toi, fais comme les autres, allons, va avec eux. » François adresse au ciel cette prière. « Mère Sainte, vous connaissez les craintes dans lesquelles je me débats. Ne m'abandonnez pas dans ce terrible combat. Mon Dieu, je suis prédestiné à l'enfer. Permettez du moins que je vous aime, tant que je suis sur cette terre. Ayez pitié de moi. » Les tentations de Paris écartées, François est de retour dans sa région. Son père veut l'envoyer à Padoue. Puisque l'université de la Sorbonne ferme ses portes à cause de la guerre, François continuera ses études dans l'université de Padoue. À Padoue, François fut mis à l'épreuve. Un soir, des amis, ne pouvant l'entraîner dans le mal, voulurent l'intimider. Mais ils se trouvèrent face à un parfait manieur d'épée. Il eut d'autres épreuves. Un jour, il reçoit la visite d'une dame. On dit que Paris est un endroit où on peut s'amuser, François. Alors vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas vous amuser? Et François de répondre... Quelquefois, je m'y ennuyais beaucoup, comme à présent. Bonsoir, madame. À quelle sainteté était déjà arrivé François lors de son séjour à Padoue? On peut le voir clairement lorsque, malade à cause des privations et des études, alors qu'on le croyait perdu, il adressa au ciel cette prière. Seigneur mon Dieu, pardonnez l'inutilité de ma vie. Que votre volonté soit faite. Mais la volonté de Dieu sur François était autre. Il guérit comme par miracle et passa avec succès ses derniers examens et fut nommé avocat avec mention excellente. Quand le jeune avocat retourna dans sa famille et trouva son père plus décidé que jamais à lui imposer ses vues, lesquelles étaient de se marier avec une grande dame, de faire une brillante carrière. Mais François sent en lui l'appel de Dieu. Ma reconnaissance est grande, Père, mais pour ceux qui regardent mon avenir, j'ai souvent songé durant mes séjours à Paris et à Padoue. Je pense ne pas me tromper sur la volonté de Dieu à mon égard. Hier, j'ai eu une grande discussion avec l'évêque d'Annecy. Reportons-nous à la journée d'hier. Sans aucun doute, notre jeune avocat François est très habile dans son argumentation, mais sur le problème de la prédestination, il existe encore des points controversés. Monseigneur, le témoignage de saint Paul, de saint Augustin, de saint Thomas sont d'une clarté indiscutable. La doctrine catholique ne craint pas les objections sur ce sujet. François, vous avez une excellente formation. Monsieur de Boissy, le Seigneur doit avoir des desseins sur vous. Ainsi, mon fils, c'est à cette discussion que vous faites allusion. Monseigneur l'évêque m'a parlé de vous en termes très élogieux, il est vrai. Mais maintenant que le conseil de Chambéry vous a reçu, je vous suis redevable, père, d'une telle promotion. Mais je dois ajouter qu'il m'est arrivé l'autre jour une chose assez étrange. Je vous écoute, mon fils. Mon cheval s'était emballé et m'avait jeté à terre. L'épée et son fourreau tombèrent à mes côtés, disposés en forme de croix. Allons, François, le hasard. Oui, mais peu après, le cheval s'emballa de nouveau, et je retrouvais encore l'épée et le fourreau en forme de croix. Je reprenais ma route, et ce fut de nouveau la même chose. Qu'en dites-vous, père ? Étrange, étrange, il est vrai. Je n'ai plus aucun doute, père. Dieu veut que je me consacre entièrement à lui. Le père proteste encore, mais la mère intervient. Monseigneur Granier, notre évêque, estime beaucoup François et le voudrait supérieur du chapitre de la cathédrale. C'est la deuxième place du diocèse. Le père finit par céder. Grand est mon sacrifice, mon fils. Et puisqu'il en était ainsi, je ne puis m'opposer à la volonté de Dieu. Je n'ai jamais douté de la vocation de mon fils, François. Cet habit que tu portes maintenant, je l'ai cousu de mes propres mains. Mère, c'est à vous que je dois un tel bonheur. Après avoir revêtu l'habit clérical, François renonce devant notaire à son droit d'aînesse et à tous les autres titres. À partir de maintenant, c'est le Seigneur qui est mon héritage. Mis à la disposition de son évêque, on admira très tôt sa piété, la clarté de sa doctrine, mais surtout l'indicible noblesse de ses manières. Le bon évêque d'Annecy pense que François est un homme de Dieu, un grand don du ciel pour son diocèse et toute la Sainte Église. À son père qui lui dit un jour, « Maintenant que tu es prêtre, François, tu peux faire un grand bien à la population de notre région du Chablais. De plus, il vient d'arriver ta nomination comme sénateur de Savoie. C'est un grand honneur pour notre famille. » François répond, « Le sacerdoce est une dignité qui suffit seule à effacer toutes les autres. Je ne me suis pas fait prêtre pour me vouer à la politique, mais uniquement pour sauver les âmes. » Après avoir quitté la maison familiale, François commence un apostolat intense. Il veut protéger les catholiques de Savoie de l'hérésie calviniste et faire revenir dans l'église du Christ les brebis égarées. Mais qui est ce prêtre papiste ? C'est un noble. Il a tout abandonné pour devenir prêtre. On le scrute avec méfiance. On le dit intelligent et courageux. Il va nous donner du fil à retordre si nous ne faisons pas attention. Dans le Chablais, les disciples de Calvin étaient très violents et le zélé François se trouva souvent dans une situation dramatique. Le voilà, frappons. Il risque sa vie. Après sa journée de fatigue et de péril, l'ex-baron, le brillant avocat, qui a renoncé à tous les honneurs, va prendre son repos comme il peut, quelquefois dans une grange misérable. Si grande est la pauvreté à laquelle il est réduit et la haine qui l'entoure, il prie. Mon Dieu, donnez-moi des âmes et prenez tout le reste. Un jour, au lieu des âmes, il trouve des loups. Il doit se réfugier sur un arbre. Vous espériez un bon repas, frère loup? Mais pour aujourd'hui, vous resterez à jeûne. Quelle frayeur! Il est vrai que je m'appelle François, mais pas d'assises, frère Loup. Au revoir, à la prochaine. Il préfère à la compagnie des loups celle des chiens. Avec vous, je vais plus volontiers, même si aujourd'hui je n'ai plus rien à manger. Mais vous me donnerez bien un morceau de votre pain, n'est-ce pas? Si mon père me voyait. Mais la haine de ses ennemis va croissant. Par crainte des représailles, les portes se ferment une à une. François écrit alors ses sermons et les glisse sous les portes. Je comprends, vous ne voulez pas entendre mes prédications. Eh bien, lisez-les. La vérité passe même par là. Et François, déjà exténué par ses courses apostoliques, vole des heures au sommeil pour écrire et diffuser la parole de Dieu. Ces feuillets faisaient brèche parmi les calvinistes, mais les écrire à la main prenait trop de temps sur la prédication. Il finit par trouver un typographe. À ces moments perdus, notre prêtre se met à prêcher même sur les places. Sa simplicité, sa douceur, son humilité finissent par triompher. Les conversions se font par milliers désormais et préoccupent toujours plus les adversaires. Un jour, il s'entretient avec le leader protestant de l'époque, qui s'appelait Théodore de Bèze. « Monsieur l'abbé, je sais qu'à ton nom vous avez prêché et que dans vos filets sont tombés non seulement des ignorants, mais même des érudits. »« Je serais très heureux, monsieur de Bèze, si dans mes filets, comme vous le dites, je trouvais aussi le successeur de Calvin. »« Moi, monsieur de Salme, frère catholique, fuyez si vous tenez à votre vie. »« Oui, je tiens à la vie, monsieur de Bèze, mais je n'hésiterai pas un instant à l'offrir pour le salut de votre âme. » Le zèle de François ne tarda pas à porter des fruits. Dans toute la région du Chablais, la foi catholique reprend vie et les cérémonies religieuses ont lieu en public. Seigneur, bénissez cette contrée d'où vous avez été chassé, que la lumière de votre vérité revienne dans ces âmes obscurcies par l'erreur. Mais que se passe-t-il? C'est le sacrifice d'Isaac, un spectacle monté par le prêtre catholique. Qu'est-ce qu'il signifie? Quelle ignorance, ma bonne dame! Venez à l'église et notre abbé vous instruira. Mais à présent, taisez-vous, vous troublez l'auditoire. Puis commencent les miracles. Mon Dieu, il est ressuscité, il est vivant. Vous avez ressuscité notre enfant. Remerciez la bonté de Dieu qui a béni cette maison. Âgé de 30 ans à peine, François est nommé évêque par le Saint-Siège. Quand il revient dans ces montagnes où il souffrit tant de fois la faim, le froid et la persécution, tous accourent à lui pour recevoir sa bénédiction. Après la voix des humbles, celle des puissants. Henri IV, roi de France et de Navarre. Monseigneur de Sales, nous vous avons invité ici à Paris car nous désirons vous exprimer notre admiration et vous prier de rester à la cour. L'honneur que votre majesté daigne faire à ma pauvre personne est bien grand. Si je ne m'étais voué totalement au diocèse de Genève, j'aurais accepté avec une profonde gratitude l'offre de votre majesté. Vous préférez donc les difficultés de la Savoie calviniste à la tranquillité d'une France catholique? Majesté, tout pasteur reste avec son propre troupeau. Et Monseigneur de Sales retourne humblement dans son diocèse. Seigneur, donnez-moi des âmes. Et prenez tout le reste. Aux splendeurs de la cour, François de Sales continue à préférer les longues et ennuyeuses heures de confessionnal. Avec sa simplicité coutumière, il continue les œuvres de charité, faisant l'aumône aux pauvres. Tenez, voici un pain pour vos enfants. Et vous, avancez, vous n'êtes pas venu hier. Après le pain matériel, l'évêque de Genève s'occupe du pain spirituel. Dans les rues de la ville, un héros court au cri de catéchisme, catéchisme. Il invite les enfants à aller à la cathédrale, où l'évêque les attend. Cette belle image de Notre-Dame pour toi, mon enfant. Mais je ne suis pas encore catholique. Et tu veux le devenir? Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes bon comme Jésus. Armé d'un courage intrépide, François ne craint pas la tempête qui s'élève quelquefois dans les Alpes. Venez avec moi, nous irons au paradis. Mais ce sont les âmes consacrées à Dieu qui purent surtout réaliser la sainteté de François de Sales. Il s'adresse souvent à ses moines. Il est pauvre comme eux. On l'appelle le marteau des hérétiques. Il reste de longues heures en prière comme les moines, même la nuit. François leur dit: mes frères, c'est à vos prières et à vos mortifications que je dois l'efficacité de mon ministère. Il est visiblement protégé par Dieu contre ceux qui en veulent à sa vie. Le voilà, vise juste, au moins cette fois. Ça y est, tu l'as raté. Vise une autre fois. Encore raté. Mais quel est cet évêque? Le diable le protège? Ou quelqu'un d'autre encore plus puissant? Dieu le protégeait car il le destinait à de grandes choses. Un jour qu'il était en prière, il eut une vision. Il vit au pied de la croix une dame habillée de noir et accompagnée de deux personnes. Un arbre étendait ses branches sur le groupe. Quelques jours après, alors qu'il prêchait dans la cathédrale de Dijon, il vit dans l'assistance la dame de la vision. Que peut signifier tout cela ? Il l'a fait appeler. Mes respects, madame. Monseigneur Frémio, évêque de Bourges, votre frère m'a parlé de vous. Et même ici, à Burbilly, nombreux sont ceux qui louent votre charité. Monseigneur, je suis veuve et je cherche à faire un peu de bien. C'est bien, madame, mais vous désirez me dire autre chose. Oh, Monseigneur, il y a quelques jours, pendant que je priais, j'entendis une voix qui me disait: c'est lui qui sera le père spirituel de ton âme. Dieu vous appelle à le servir encore plus étroitement, madame. Quelques années après, le 29 mars 1610, la baronne Jeanne Frémio de Chantal, ayant pourvu à l'avenir de ses enfants qu'elle aimait tendrement, devait abandonner son palais pour suivre la voie de Dieu. C'est ainsi que naquit l'ordre de la Visitation. Nous sommes les premiers novices et nous devons nous sanctifier comme notre Père fondateur et notre Mère fondatrice. La Mère est en train d'écrire à Monseigneur pour lui demander le commentaire de notre Constitution. Il sera certainement basé sur l'esprit de charité et de douceur. Oui, mes filles, nous devons imiter la douceur de Jésus. Doux et humble de cœur, et vous vous nommerez sœur de la Visitation, car vous devrez imiter la douceur de la Mère de Dieu, Notre-Dame la Vierge, dans son zèle envers les pauvres. Les Visitandines, les sœurs du Saint-Évêque de Genève, vont à la recherche des pauvres et de ceux qui sont malades. Pourquoi sont-elles toujours souriantes ?
Elles sont toujours souriantes parce que Monseigneur de Sales le veut ainsi. Il dit que la charité est plus aimable quand elle s'accompagne d'un sourire.
Pourquoi nous sourions toujours ? Vous le savez mieux que moi, cher Vincent de Paul. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie.
Dieu continue à opérer des miracles à travers son fidèle serviteur.
Oui, monsieur, c'est ma fille. Monseigneur l'a ressuscitée.
Vous dites bien ressuscitée. Mais oui, demandez à tous ceux qui pleuraient ma mort il y a quelques heures.
La réputation de Saint François de Sales dépasse bientôt la Savoie et les hauts dignitaires de l'Église cherchent à percer le secret de sa sainteté.
À Richelieu, qui lui demande son secret, il répond « Mon secret, cardinal, oh, il est bien simple. C'est la douceur de Jésus, notre Sauveur. »
Mais ce n'est pas un secret, monsieur de Sales. Vous l'avez écrit dans votre précieux livre, « L'introduction à la vie dévote ».
Il est de notre devoir d'empêcher le mal et de corriger les vices. En cela, soyons fermes et énergiques, mais faisons-le toujours d'une manière douce et l'âme apaisée. Il n'y a rien qui ne calme tant un éléphant furieux que la vue d'un agneau.
L'image de l'agneau divin, François de Sales avait pu la contempler à Turin, lors de l'ostension solennelle du Saint-Suaire. Avec une grande humilité, il s'agenouilla au bas de la précieuse relique, et ce fut comme si toute l'énergie du Saint-Évêque se fût multipliée au centuple. Comme certains craignaient pour sa santé chancelante et insistaient pour qu'il se reposât un peu, il répondit avec le style qu'on peut lire dans ses écrits.
Soyons prêts à souffrir pour notre Seigneur de nombreuses et grandes peines, même le martyre. François tomba gravement malade. C'était le 28 décembre 1622. Le Saint-Évêque de Genève venait de terminer sa féconde journée. Il retournait à Dieu, à qui il avait tout donné, sans rien demander ni rien refuser.
Son corps repose dans l'église de la Visitation à Annecy. Il sera canonisé en 1665, puis proclamé en 1877 docteur de l'église à cause de la profondeur de sa doctrine qu'on trouve dans deux de ses principaux ouvrages, le traité de l'amour de Dieu, l'introduction à la vie dévote. La vraie dévotion demande avant tout l'amour de Dieu. Ainsi, elle n'est point autre chose que le vrai amour de Dieu. L'amour de Dieu, en tant qu'il embellit notre âme, s'appelle grâce. En tant qu'il nous communique la force de faire le bien, s'appelle charité.